VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi Dorsil et Tatiana Mosso. Bonsoir, bienvenue à l'édition du 4 août 2015. Au sommaire ce soir.
Prémices de guerre au Burundi, selon l'organisation Crisis Group, rencontre à Addis Abeba des membres de l'opposition. Le point complet dans ce journal.
Gabon, l'influent directeur de cabinet de Bongo dans le collimateur de la justice française. Manifestation de soutien devant l'ambassade de France ce mardi à Libreville.
Côte d'Ivoire, condamnation à 20 ans de prison du commandant Anselme Sekayapo, l'aide-ex de camp de l'ancienne première dame Simone Gbagbo.
Nous reviendrons ce soir sur le drame des migrants en Méditerranée.
Le problème est beaucoup pire cette année que l'année dernière. Les problèmes dans le monde sont pires. Les problèmes en Syrie, en Irak, les problèmes en Érythrée, les problèmes partout.
On écoutera le porte-parole de l'Office international pour les migrations.
Ici aux États-Unis, des milliers de personnes sont déplacées par les feux de forêt en Californie. Plus de 9000 sapeurs-pompiers tentent de contenir au moins 21 brasiers.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Sekayapo, ex-aide de camp de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, a été condamné aujourd'hui par un tribunal militaire d'Abidjan à 20 ans de prison pour assassinat durant la crise post-électorale de 2010-2011. Toujours à propos de cette crise ivoirienne, l'impartialité de la Cour pénale internationale est remise en cause. Human Rights Watch dénonce dans un rapport l'absence de poursuites par la CPI contre les pro-Ouattara, les précisions d'Eddie Sango.
Human Rights Watch estime que la CPI aurait pu mieux faire son travail en Côte d'Ivoire. Dans ses rapports intitulés « Pour que la justice compte », enseignement tiré du travail de la CPI en Côte d'Ivoire, l'organisation internationale qualifie des maladresses la décision du bureau du procureur de limiter ses enquêtes initiales aux crimes commis par un seul camp lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette décision a affaibli l'impact potentiel de la Cour, selon Human Rights Watch. Fatou Bensouda a répété à maintes reprises que son bureau enquêterait également sur les crimes commis par les camps Ouattara, mais ne l'a pas encore fait en raison des moyens limités, assure-t-elle. Laurent Gbagbo et l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blégoudé, sont écroués à La Haye, où leur procès devant la CPI doit s'ouvrir le 10 novembre. L'épouse de Laurent Gbagbo, Simone, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, mais Abidjan refuse son transfèrement à La Haye.
Au Burundi, un responsable du parti présidentiel en commune Kanyosha, Arerimana, a été tué aujourd'hui vers 10h par des inconnus armés. Un militaire a aussi échappé à un assassinat ce matin à proximité du cercle nautique de Bujumbura.
En Afrique du Sud, fin des poursuites judiciaires contre Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, n'est plus poursuivi par la justice de son pays pour corruption en raison des trop nombreux reports de son procès ces trois dernières années. La justice sud-africaine s'est prononcée mardi. Les explications de Rachid Bouda.
Le juge Billy Mottel a annoncé la fermeture du dossier permettant à Julius Malema de retrouver sa liberté. D'après le magistrat, les accusés attendent d'être jugés depuis 2012. Après avoir été reporté de plusieurs mois en septembre, le procès avait été de nouveau ajourné lundi à cause de l'hospitalisation d'un de ses co-accusés. Le parquet a souhaité que les audiences puissent se tenir sans ce co-accusé ou qu'elles soient repoussées une fois de plus, mais ces deux alternatives ont été refusées par le juge. Âgé de 34 ans, Julius Malema était accusé depuis 3 ans d'enrichissement illicite en rapport avec un appel d'offres de 3,7 millions d'euros pour l'entretien des routes de la province du Limpopo dans le nord de l'Afrique du Sud. Il est présentement libre, mais l'État sud-africain peut décider de le poursuivre à nouveau à travers une nouvelle procédure.
En République centrafricaine, le calme est revenu dans le 3e arrondissement de Bangui au lendemain des violences meurtrières de ces dernières 48 heures. Des violences qui ont fait au moins 5 morts, dont un casque bleu de la MINUSCA. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Après l'offensive menée lundi matin par les forces de la MINUSCA dans le secteur de Pika 5, le calme semble revenu dans les zones secouées par les heures de dimanche à lundi. La circulation a repris dans l'après-midi sur les principales artères du 3e arrondissement. Des commerces ont rouvert leurs portes et certains habitants déplacés ont commencé à regagner leurs habitations. La force onusienne multiplie ses patrouilles et accroît sa présence dans le secteur. Nous contrôlons la situation et nous sommes en train de prendre contact avec les populations pour leur expliquer l'intérêt de notre opération, a indiqué Amadoune Touré, porte-parole de la MINUSCA. Dimanche, une patrouille de l'unité de police constituée de la MINUSCA a été prise à partie par une bande armée dans le quartier PK5 alors qu'elle tentait d'arrêter sur mandat du procureur un homme recherché par la justice pour plusieurs crimes. Bilan, au moins 5 personnes, dont un policier camerounais de la MINUSCA tué, plusieurs blessés et 3 suspects arrêtés. La force onusienne a annoncé que l'opération se poursuivra jusqu'à ce que la sécurité de la population soit garantie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Triste bilan en Europe, le cap des 2000 migrants morts cette année en mer Méditerranée a été franchi ce week-end. Malgré le danger, nombreux sont ceux qui tentent toujours de gagner l'Europe par la mer avec l'aide de passeurs. Léonard Doyle est le porte-parole de l'Office international pour les migrations. Il a été joint par Nicolas Pinault à Genève.
C'est beaucoup plus jusqu'à ce moment que l'année dernière. L'année dernière, c'était 1600. Tous les gens qui fuient le Moyen-Orient essaient de traverser la Méditerranée. Ils sont dans les mains des passeurs. Ils sont dans les tout petits bateaux. Le problème est beaucoup pire cette année que l'année dernière. Les problèmes dans le monde sont pires. Les problèmes en Syrie, en Irak, les problèmes en Érythrée, les problèmes partout. Soudan, il y a des gens qui viennent de Soudan qui disent qu'ils sont là à travers des problèmes de droits de l'homme.
Léonard Doyle. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui devait se rendre en Égypte, a annulé son déplacement pour raisons de sécurité intérieure après 2 attaques djihadistes et en fait 13 morts en 3 jours parmi les militaires maliens. Selon son entourage, il devait assister jeudi à l'inauguration de la seconde voie du canal de Suez qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée, cérémonie à laquelle il avait été invité par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
La République de Djibouti a ressuscité sa compagnie aérienne, l'une des plus anciennes du continent africain, et en a confié la gestion à un chef d'entreprise pas comme les autres, le chanteur du légendaire groupe de hard rock Iron Maiden, Bruce Dickinson. Air Djibouti a effectué lundi son premier vol depuis 2002, marquant la renaissance de cette entreprise d'État qui devrait redémarrer le transport des passagers au mois de novembre.
La banque Société Générale est citée dans une enquête sur une affaire de biens mal acquis en France par Théodorin Obiang, fils du président équato-guinéen, un dossier de détournement présumé de fonds publics.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, les forces luttant contre les rebelles chiites houthis ont repris une importante base militaire située à environ 60 km au nord d'Aden. Cette victoire devrait permettre aux partisans du président Abd Rabou Mansour Hadi, contraint à l'exil en Arabie Saoudite, de sécuriser cette ville portuaire et élargir leur territoire. La base aérienne d'Al-Nadad est tombée aux mains des loyalistes après plusieurs jours de combats et grâce à l'appui aérien de la coalition régionale. Selon les sources pro-gouvernementales, 70 rebelles chiites et 24 combattants sunnites sont morts dans ces affrontements.
Alors que la Turquie poursuit sa campagne militaire contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak, l'Union européenne et les États-Unis ont appelé Ankara ce mardi à la retenue. La Turquie a le droit de se défendre, disent-ils, tout en préconisant une réponse proportionnelle dans les frappes aériennes menées contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Depuis le début des hostilités le 20 juillet, le PKK a perdu au moins 260 combattants et tué au moins 18 militaires turcs.
Les feux de brousse qui font rage dans le nord de la Californie ont doublé d'intensité et menacent maintenant des maisons et commerces, tout en s'élargissant à d'autres états du nord, du nord-ouest. Idrissa Seydoudia.
Le sinistre couvre maintenant plus de 260 km², malgré les efforts des milliers de pompiers dans cet état frappé par la sécheresse. Il a atteint l'autre côté d'une autoroute qui devait constituer une barrière et s'est étendu plus loin encore, bien que le climat se soit rafraîchi et, on dit, l'humidité plus grande maintenant. Aucune autre maison n'a été brûlée aujourd'hui après les 24 déjà détruites, en même temps que 26 dépendances dans le secteur de Lower Lake, situé au nord de San Francisco. Les autorités ont demandé à 13 000 personnes d'évacuer 5 500 maisons. Une bonne partie de ces feux de brousse a été causée par la foudre et a été propagée par une combinaison d'arbres secs et de vents violents. Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré l'état d'urgence et ordonné à sa garde nationale d'aider à faire face aux sinistres et à ses dégâts.
Le secrétaire d'État américain John Kerry se montre optimiste quant aux négociations sur l'accord de libre-échange de la zone transpacifique. Les 12 nations prenant part aux pourparlers ont fait des progrès significatifs, a dit le chef de la diplomatie américaine. Lors d'une escale à Singapour, John Kerry a signalé que l'accord comporte, entre autres, des clauses sur la protection de l'environnement et les conditions de travail. Ces négociations traînent, il faut le rappeler, depuis des années. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Michel Joseph.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé à Grand Laou, à l'ouest d'Abidjan, l'augmentation du capital du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui passe de 6 à 8 milliards de francs CFA. Ce fonds remboursable a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour aider à l'autonomisation des femmes et contribuer à la lutte contre la pauvreté, rappelle l'agence APA. La Banque africaine de développement a décidé d'accorder une ligne de crédit de 1,64 milliard de francs CFA à Fidélis Finance, ex-Burkinabé, en vue de renforcer ses capacités d'intervention en matière de financement des petites et moyennes entreprises, a appris l'agence APA auprès des responsables de la société. Avec le présent concours, nous envisageons de financer au moins une cinquantaine de projets, a indiqué le directeur général de Fidélis Finance, Abdoulaye Sori. La République de Djibouti a relancé sa compagnie aérienne, dont la gestion a été confiée au chanteur du légendaire groupe de hard rock Iron Maiden, Bruce Dickinson, a appris mardi l'AFP auprès des autorités djiboutiennes. Le Kenya va construire un pont ferroviaire au-dessus de l'emblématique parc national de Nairobi pour y faire passer la nouvelle ligne de chemin de fer entre la capitale et Mombasa, principal port du pays. Une nouvelle accueillie favorablement mardi par les protecteurs de l'environnement.
Merci Michel Joseph pour la Minute Éco.
Après l'économie, les sports, salut Nicolas Pinault.
Bonsoir chérubin.
Football, rubrique transfert.
Oui, l'attaquant ivoirien de Saint-Etienne, Max-Alain Gradel, s'est engagé pour 4 ans avec le club anglais de Bournemouth. L'indemnité du transfert qui a été long à se finaliser avec Saint-Etienne n'a pas été révélée. Elle pourrait s'élever avec ou sans bonus à environ 7 millions d'euros. Après 4 saisons chez les Verts, Gradel, auteur de 17 buts en 31 matchs en Ligue 1, revient donc en Angleterre où il découvrira la Première Ligue. Et puis on parle également de l'attaquant international congolais Fodé Doré qui a signé pour 2 ans au SCO d'Angers, club promu en première division française. Lorient s'est attaché les services de l'attaquant international camerounais Benjamin Moukandjo. Un bail de 2 ans attend le Lion indomptable, auteur de 8 buts la saison passée en Ligue 1. Montant de l'opération, 1,5 million d'euros.
Coup d'œil sur le championnat égyptien, le Zamalek titré.
Le club du Caire, déjà sacré champion, s'est contenté d'un match nul 0-0 hier face à Wadi Degla pour le dernier match en retard de la 24e journée. Zamalek a remporté son premier titre de champion depuis 2004, le 12e de son histoire, et succède au palmarès à son grand rival, Al Ahly.
Sur le continent américain, la Copa Libertadores de América, Nicolas.
Les Mexicains de Monterrey affronteront en finale retour les Argentins de River Plate. Au plus haut niveau et donné favori pour remporter la plus prestigieuse compétition des clubs d'Amérique latine. Au match aller à Monterrey, les Mexicains ont concédé à domicile le match nul 0-0.
Championnat du monde de natation en Russie, les dernières nouvelles.
James Guy a remporté la finale du 200 mètres des mondiaux de Kazan en 1 minute 45 secondes 14 centièmes après avoir pris l'argent sur 400 mètres. Une course pas très rapide mais très serrée puisque le Britannique a devancé le Chinois Sung Yang de 6 centièmes et l'Allemand Paul Biedermann de 24 centièmes. Quant à l'Américain Ryan Lochte, en tête au dernier virage grâce à sa fameuse coulée sur le dos, il termine seulement 4e à 69 millièmes.
Et la Fédération internationale d'athlétisme dément les allégations de dopage.
Suite aux accusations de la chaîne de télévision allemande ARD et du quotidien britannique Sunday Times ce week-end sur un supposé dopage de grande ampleur dans l'athlétisme, l'IAAF parle de sensationnalisme. La suspicion seule n'est pas une preuve de dopage, a ajouté la Fédération au sujet des échantillons sanguins de 800 athlètes présentant des valeurs suspectes ou hautement suspectes. Selon ces médias, sur les 146 médaillés mondiaux ou olympiques entre 2001 et 2012, du 800 mètres au marathon, un tiers présenterait des valeurs suspectes.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un plaisir d'être en votre compagnie et en compagnie de Tatiana. Chirubien Dorsil et Tatiana Mosso avec vous, dossier du jour.
Au Burundi, l'opposition a formé un conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de la restauration de l'état de droit après une rencontre de 3 jours à Addis Abeba la semaine dernière. Ce conseil est dirigé par l'opposant historique Léonard Nyongoma, en exil en France. L'ancien chef de l'état burundais Sylvestre Tibungonya a participé aux assises d'Addis Abeba.
L'opposition burundaise a un devoir aujourd'hui à être bien préparée à toute situation pouvoir arriver pour y faire face efficacement pour l'intérêt général des Burundais. Et aujourd'hui, la première question à l'ordre du jour est comment s'organiser pour influer politiquement, diplomatiquement, afin que soient relancées les négociations que le président Yoweri Museveni avait fait entamer il y a à peu près un mois et qui doivent être des négociations qui préparent le Burundi à l'organisation de véritables élections pluralistes, inclusives, libres, transparentes, justes, équitables, donc crédibles. Des élections qui soient capables d'accoucher des institutions dans lesquelles tous les Burundais se reconnaissent, des institutions efficaces pour faire face à la crise actuelle, mais également aux autres ambitions que les Burundais doivent avoir, et des élections qui accouchent des institutions et qui doivent également inspirer confiance et qui doivent ensuite obéir au Burundais qui constitue le souverain suprême.
Le président Pierre Nkurunziza a choisi le passage en force. Est-ce que vous pensez qu'il va l'accepter? Est-ce que les rapports de force sur le terrain sont-ils équilibrés?
L'expérience nous montre que partout où des situations de crise telles que celles qui sont au Burundi sont produites, la meilleure voie, la plus efficace pour les résoudre, ce n'est pas de faire un forcing quelconque, mais d'accepter de s'asseoir sur une table de négociation avec ses partenaires. Et le président Nkurunziza, comme d'autres, sont dans le cercle du pouvoir autour de lui, doivent le comprendre, il n'y a pas d'autre voie, à moins qu'ils aient opté pour la gestion du Burundi dans des voies violentes, ce qui veut dire dans des voies anticonstitutionnelles. À ce moment-là, ils emporteraient la responsabilité.
Il y a un regain de violence et des assassinats ciblés. Est-ce que le pays va dans le chaos?
Nous ne pouvons pas accepter que le président aille dans le chaos. Nous devons absolument accepter aujourd'hui que le premier devoir que nous avons est de tout mettre justement en œuvre pour que le Burundi échappe définitivement à ce chaos.
C'était le président Sylvestre Tibantougania au micro de Eric Manirakiza.
Voilà, on finit toujours par s'en sortir, Tatiana. Toutes les prémices de la guerre sont en place au Burundi, prévient International Crisis Group. L'organisation internationale déplore que la médiation internationale se soit estompée, laissant place à une escalade de violence. Eddy Sango a joint l'expert du groupe en charge de l'Afrique centrale, Thierry Vircoulon.
On voit se mettre en place tous les ingrédients d'un nouveau conflit. Je fais évidemment référence à l'assassinat du général Adolphe Nshirimana dimanche et puis à la tentative d'assassinat de Pierre Claver qui a suivi. Il va de soi que la violence a fait un bond au Burundi avec ces deux attentats puisque on est passé des manifestations populaires contre le troisième mandat à maintenant des assassinats ciblés. Cette évolution est annonciatrice de plus grande violence au Burundi. Et on note également que depuis la réélection du président Nkurunziza, il n'y a plus de médiation internationale pour organiser un dialogue politique à Bujumbura. Donc la combinaison à la fois de l'assassinat ciblé et de l'absence de dialogue nous conduit à penser qu'on est déjà dans une logique conflictuelle au Burundi et que la réélection du président Nkurunziza a en fait radicalisé les oppositions, a approfondi la crise burundaise au lieu de la résoudre.
Avec les débouchages de l'opposant Agathon Rwasa, l'opposant historique, ne pensez-vous pas qu'il y a une possibilité que les Burundais aillent plutôt vers un gouvernement d'union nationale?
Dans l'opposition, sont d'accord pour un gouvernement d'union nationale dans la mesure où ce gouvernement serait une forme de gouvernement transitoire pour organiser un nouveau scrutin, parce qu'ils ne reconnaissent pas le scrutin passé. Je ne sais pas si l'idée, par contre, de faire un gouvernement d'union nationale pour les 5 ans à venir.
Le président Pierre Nkurunziza, qui vient d'être réélu, a lancé dimanche un appel au calme et a demandé aux Burundais de rester unis et d'éviter les pièges de la vengeance. Est-ce que vous ne pensez pas que les Burundais pourront répondre à cet appel, et comment voyez-vous vous-même son gouvernement?
Je ne pense pas que son appel sera entendu par tout le monde. C'est un régime qui a l'habitude de ne pas faire ce qu'il dit.
Thierry Vircoulan au téléphone depuis Nairobi.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
La brève interpellation en France de l'influent et controversé directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo, Mexan Akrombessi, soupçonné d'avoir perçu illégalement de l'argent d'une entreprise française, a suscité l'incompréhension du pouvoir à Libreville. Une manifestation pro-gouvernementale encadrée par les forces de l'ordre s'est tenue mardi matin devant l'ambassade de France. Jean-Rovis Dabani, notre correspondant au Gabon.
Ce n'est pas la première fois que les relations entre Libreville et Paris s'étendent. Cette fois-ci, la tension est montée après la brève interpellation hier en France de Mexan Akrombessi, directeur de cabinet du président Ali Bongo. La justice française cherche à savoir si M. Akrombessi aurait perçu de l'argent de la société Marc, l'entreprise française spécialisée dans la fabrication d'uniformes militaires, en échange de l'attribution des marchés très juteux. Son interpellation a fait réagir la présidence gabonaise qui s'est émue du comportement de l'ancienne puissance coloniale. Mardi matin, quelques 200 personnes ont manifesté pacifiquement devant l'ambassade de France à Libreville avant de transmettre aux autorités de l'ambassade un manifeste signé des proches d'Ali Bongo. Porte-parole du mouvement, Erwin Dongobian, est catégorique. Monsieur Akrombessi est victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par certains décideurs français.
Nous sommes venus manifester à l'ambassade de France parce que nous constatons avec récurrence que la République française ne sait pas que le Gabon est un État indépendant et souverain et que ce qu'ils ont fait hier, c'est une récurrence des événements. Parce que hier, ils ont arrêté l'avion du président de la République, monsieur le président de la République. Aujourd'hui, c'est le directeur de cabinet et nous nous posons la question à qui le tour. Donc c'est pourquoi nous sommes venus remettre un message à monsieur l'ambassadeur de France pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ces méthodes.
Si la manifestation anti-française organisée en riposte à cette nouvelle provocation n'a pas mobilisé grand monde, elle n'en demeure pas moins révélatrice de l'évolution des relations entre la France et le Gabon. Critiquée par l'opposition gabonaise et la société civile pour être la cheville ouvrière du système de gouvernance mis en place par Ali Bongo à partir de 2009, Mexan Akrombessi est aujourd'hui le véritable gardien du palais de bord des mers. Makona est l'un des fondateurs du mouvement Ça suffit comme ça.
Et je pense sincèrement que ce dossier n'est que un petit dossier qui va ouvrir d'autres dossiers que nous soupçonnons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau international, que la justice fasse son travail pour que ceux qui pensent les prédateurs des pays arrêtent de piller pour se réfugier en Occident. L'Occident ne devrait pas être aujourd'hui une sorte de refuge pour les brigands, pour les criminels financiers à travers le monde. Et c'est un exemple pour nous. Je crois que c'est un signal très fort. Même si la garde à vue n'a pas excédé 24 heures, même si c'était une seconde de garde à vue, pour nous c'est un signal fort qui montre que personne ne peut plus demeurer impuni dans les actes de criminalité financière.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo qui a succédé à son père en 2009, les relations entre les deux pays sont restées houleuses. Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Ce jeudi, Washington Forum braque les projecteurs sur Yali 2, le second sommet des jeunes leaders africains aux États-Unis. Pour le président Obama, la jeunesse est le moteur du progrès. Le programme Yali peut-il aider les jeunes leaders africains à faire une réelle différence sur le continent? Quelles doivent être leurs priorités? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Le président américain a donné le coup d'envoi lundi ici à Washington de cette seconde édition du sommet Yali consacré aux jeunes leaders africains. Et pendant plus d'une heure, Barack Obama a échangé avec les 500 jeunes invités. Il a évoqué plusieurs sujets, dont l'entrepreneuriat en Afrique, la discrimination faite aux femmes et à certaines minorités, tout en se disant optimiste sur l'avenir du continent. Comment son message a-t-il été accueilli? Bagassi Koura a posé la question à deux participants venus du Bénin. Voici d'abord Aurélie Adam Soulé, ingénieure en télécommunications.
Le discours du président Obama a été très inspirant pour nous tous et je peux le dire fièrement de la part de tous les autres fellows. Personnellement, ce que je retiens le plus, c'est que on peut être le plus grand homme, le plus convoité du monde et encore être accessible aux personnes qui sont les plus importantes sur cette terre, les jeunes, les femmes. Ceux qui au quotidien vivent en fait toutes les difficultés dans leurs pays respectifs. Le président Obama nous a beaucoup inspirés par son discours.
Quelque part, il a dit, pour savoir la santé économique d'un pays, il suffit seulement de voir comment ce pays traite les femmes. Comment vous appréciez cela?
C'est tellement vrai et c'est tellement pertinent ce qu'il a dit. Parce que regardez autour de vous, en fait. On peut prendre quelques exemples sans trop vouloir jeter la pierre. Regardez dans nos pays, regardez dans nos régions. Au Bénin, il y a des régions où cette suprématie mâle, entre guillemets, est très répandue, très forte. Et je me rends compte que effectivement, économiquement, ce sont les régions qui ont le plus de difficultés à émerger.
On m'appelle Roméo Essou. Je suis actuellement le directeur national de l'ONG Right to Play au Bénin. Et je suis ici dans le cadre du programme pour les jeunes leaders africains. Et je retiens de son discours essentiellement qu'il a demandé à nous, les jeunes africains, les leaders de demain, le rôle qui est le nôtre dans le processus qui consistera à freiner l'hémorragie des cerveaux africains vers les pays européens. L'Afrique a besoin de ses cadres. L'Afrique a besoin de l'intelligence de ses fils. Malheureusement, la plupart d'entre ces fils qui viennent découvrir tout ce qu'il y a de bon dans le système éducatif occidental, malheureusement, disais-je, tout cela ne retourne pas au pays pour contribuer. Et ce n'est pas toujours parce qu'ils sont animés de mauvaise volonté, mais c'est parce qu'à l'intérieur de l'Afrique, nous n'avons pas créé les conditions qu'il faut pour permettre à ceux-là de revenir et réinvestir leur savoir.
Roméo Essou, participant au sommet Yali à Washington et directeur national de l'ONG Right to Play au Bénin.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Prémices de guerre au Burundi, selon l'organisation internationale Crisis Group, rencontre à Addis Abeba des membres de l'opposition.
Gabon, l'influent directeur de cabinet de Bongo, Meksin Kondbessi, dans le collimateur de la justice française. Il a été libéré après avoir été mis en garde à vue. Manifestation de soutien devant l'ambassade de France ce mardi à Libreville.
En Côte d'Ivoire, condamnation à 20 ans de prison du commandant Anselme Sekayakpo, l'ex-aide de camp de l'ancienne première dame de Simone Gbagbo.
Ici aux États-Unis, des milliers de personnes sont déplacées par les feux de forêt en Californie. Plus de 9000 sapeurs-pompiers tentent de contenir au moins 21 brasiers. Disons aussi qu'en République centrafricaine, le calme est revenu dans le 3e arrondissement de Bangui. Au lendemain, des violences qui ont fait au moins 5 morts, dont un casque bleu de la MINUSCA.
Et c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Georges-Léonard Sagnot.
Et nous remercions notre ami Souleymane à la console. Alors, Tatiana, ça va?
Le journal était présenté par, par Chérubin Dorsil.
Et Tatiana Mousseau. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Restez en notre compagnie sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Les nouvelles dans un instant.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga,
Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.